Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous invite à faire une première lecture dans le psaume 32. Voilà, le psaume 32, c'est un psaume de David, nous allons parler de lui. Le roi David, poète, et avec beaucoup d'autres qualités, écrivain, roi d'Israël, chantre. Alors c'est simplement deux versets dans ce psaume que nous allons lire et relire. Le psaume 32, et nous allons lire le verset 6 à 8, simplement ces deux petites phrases. Qu'ainsi tout homme pieux te prie, au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà pour la situation de notre méditation. Enfin, c'est un premier élément, un premier point. Je vois que ça fait écho à ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 1er. Vous vous en souviendrez parce que ça c'est mémorable. Jésus dit ceci, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Alors on va voir justement quelle est la concrétisation ou la démonstration de cette foi qui nous permet de surmonter nos détresses ou nos désarrois. Parfois lorsque l'angoisse ou l'anxiété nous étreint, alors Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point, ce qui n'est pas facile. Humainement parlant, c'est difficile quand nous sentons que nous sommes submergés par des choses qui nous dépassent et qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, causées parfois à travers des événements ou des situations qui nous viennent de l'extérieur, des contrariétés, des vexations, des humiliations, des déceptions, enfin tout ce qu'il peut y avoir, ou des grandes peurs. Peur de perdre, voire même perdre notre vie, quand nous sentons menacés d'une façon ou d'une autre, soit peut-être par la maladie ou par des gens qui nous veulent du mal, enfin toutes sortes de choses. Jésus nous dit ceci tout simplement, que votre cœur ne se trouble point. Et il a de bonnes raisons pour nous le dire, parce qu'il nous donne la solution en même temps. Il nous dit, mais croyez en Dieu, croyez en moi. Et c'est vrai que ce n'est pas une formule magique d'abord. Mais c'est tout simplement une recommandation qui nous est donnée, et combien ceux qui en ont fait l'expérience de ce conseil que Jésus nous donne est véritablement quelque chose de formidable et de merveilleux, parce que nous nous apercevons que à partir du moment où nous tournons nos regards et nous plaçons notre cœur en haut, les choses d'en bas prennent une autre dimension, c'est-à-dire perdent un petit peu leur acuité et leur dangerosité. Et ça, c'est un acte, finalement, de foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est de croire à ce qu'on ne voit pas. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec une motivation ou tout simplement une attitude religieuse. C'est pas ça, la foi. Ça, c'est une croyance. Croyance en ceci, croyance en cela. Mais la foi, c'est, comme elle est enseignée dans l'Évangile, comme elle est enseignée par Jésus, c'est tout simplement une attitude morale de notre cœur qui fait que même si je ne vois pas, même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas, Dieu me dit de croire en lui. Parce que quelle est ma force ou quelles sont mes capacités moi-même en tant qu'homme de solutionner des problèmes qui me submergent, des situations qui me renversent, des situations qui me terrorisent. Alors il faut bien que quelqu'un soit plus grand, plus fort que moi. Alors à ce moment-là, la seule attitude, c'est simplement de m'abandonner en lui. Et assurément, de s'abandonner à quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est difficile. C'est un peu marcher à l'aveugle, mais on va le voir dans le détail. Et on va justement parler de notre fameux David, roi David, parce que c'était un homme de foi. Un homme remarquable dans sa confiance qu'il mettait en Dieu. Et il y a de nombreux livres dans la Bible qui nous parlent de David. Il y a tous ces psaumes, enfin une grande partie des psaumes qui sont des poèmes et qui sont l'expression des détresses de David et de ses victoires sur la détresse. Il y a des choses qui sont formidables. Le plus connu, c'est quand même le psaume 23. L'Éternel est mon berger, et il ajoute, je ne manquerai de rien. Parce qu'il me fait reposer près des verts pâturages, il m'apporte tout ce dont j'ai besoin, et il me rassure. Et quand bien même je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Imaginez-vous la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Alors, on va voir un petit peu. Je vais commencer par le psaume 32, et puis après nous allons voir un petit peu à la manière appliquée de David de mettre sa foi en Dieu. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Dans le verset 6, on le retrouvera d'ici quelques instants, il nous est parlé de la vertu de la prière, ou les vertus de la prière au bon moment. Qu'ainsi tout homme pieux se prie au temps convenable. L'homme de foi, c'est ça ce que ça veut dire. Les vertus de la prière et prier au bon moment, au temps favorable. Ensuite, il nous est parlé des calamités surmontées, que nous arrivons à surmonter et dont nous sommes protégés. Écoutez bien, si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Voilà cette assurance. Calamités, les tsunamis, les raz-de-marée qui viennent tout balayer dans notre vie, intérieure et extérieure. Ensuite, David nous parle de la sécurité que procure la confiance en Dieu. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Vous savez ce que c'est qu'un asile? Enfin, il y a peut-être une considération péjorative, mais c'est là où on est protégé. C'est un château, c'est une forteresse. C'est là où on peut dire, je suis en totale sécurité parce que mes ennemis ne peuvent m'atteindre. Une forteresse, c'est souvent sur les éminences, sur les sommets. Alors, on peut regarder les ennemis venir parce qu'on est plus haut. On est plus grand, en quelque sorte. Et tu me garantis, de la détresse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, finalement, toutes sortes de choses, de bouleversements autour de moi, mais je ne crains pas. Je suis dans le calme, la sérénité. Et puis, la troisième chose, c'est que, il nous parle, David, de la joie de la victoire. Vous savez, quand on est mal pris dans notre vie, on a plus envie de pleurer, on a plus envie de murmurer, de se lamenter, que de nous réjouir. David dit précisément, il affirme le contraire, il nous parle tout simplement des joies de cette victoire que nous trouvons en Dieu, tu m'entoures de chants de délivrance. Ça, c'est une expérience unique que les chrétiens nous pouvons faire, que là où il pourrait y avoir que des lamentations et des gémissements, parfois au fond de notre cœur, et même si les problèmes sont loin d'être réglés, c'est comme s'il y avait cette paix, cette force intérieure à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dit « n'aie pas peur, ne crains rien ». Et c'est comme s'il y avait un chant à l'intérieur de nous-mêmes. C'est difficile à comprendre tout ça, mais celui qui l'a expérimenté, il sait très bien cela. Et puis, au verset 8, simplement pour aller un petit peu plus loin, il est question de la prudence ou de la sagesse de demander à Dieu, que tout homme prie au temps convenable, donc de demander à Dieu, de consulter Dieu, pour l'issue heureuse dans nos détresses. Comment ça va finir? Parce que quand on rentre dans un problème, qu'il soit réel ou quelquefois imaginaire, parce que quelquefois on se fait beaucoup de soucis, puis on s'aperçoit que c'est pas ça. Quand on est passé, quand on a passé le feu, on se dit, mais je me suis bien inquiété pour rien. Je me suis fait bien du souci. Ah là là, que de nuits passées à me tourmenter, à tourner et retourner. Et en définitive, c'est pas ce qui s'est passé. Parce que, heureusement d'ailleurs, heureusement qu'à chaque fois que nous pensons qu'il va nous arriver quelque chose, ça n'arrive pas. C'est dans notre tête, c'est dans notre cœur, ce sont les agitations. Et nous voyons qu'il est parlé justement de cette sagesse d'aller demander à Dieu que ce soit lui qui nous conduise vers une solution, vers une issue, dans nos difficultés. Et nous voyons que dans le dernier verset, il nous est dit ceci. Il nous est parlé au verset 8, que Dieu nous instruit, que Dieu finalement est capable de nous montrer la voie de la délivrance, le chemin par lequel nous allons être délivrés. Il nous demande de le suivre, ce qu'on peut finalement être instruit, c'est-à-dire savoir. On peut connaître la direction qu'on devrait marcher dans laquelle on ne marche pas. Et faut-il le suivre ? Autrement, bon, on n'y arrivera jamais. Et puis il nous est parlé également du conseil de Dieu. Je te conseillerai, et puis j'aurai les regards sur toi, c'est-à-dire sa présence fidèle. Parce que quand Dieu nous dit j'ai les regards sur toi, c'est qu'il ne va pas nous lâcher au moment fatidique, au moment où nous en avons le plus besoin. Il a ses regards, c'est sa présence qui est importante. Alors, ceci pour introduire, et je vous invite maintenant à voir en exercice pratique, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, puisque c'est David qui nous donne ce conseil, et que Jésus nous dit « croyez en moi, croyez en Dieu », puis alors, que votre cœur ne se trouble point, parce que moi j'ai les solutions. Et figurez-vous que, dans bien des histoires, dans bien des témoignages que nous avons, dans bien des situations que nous avons traversées nous-mêmes, eh bien, je pourrais dire, comme nous le chantons tout à l'heure, « Mon Dieu sait si bien ce qu'il me faut ». Ouais, je ne sais pas si vous en êtes convaincu, mais Dieu sait si bien ce qu'il me faut. Alors, on va le voir à travers un épisode de la vie de David, maintenant dans 1 Chronique, chapitre 14. Je vais lire un verset, puis ensuite nous continuerons sur un autre texte. Alors, 1 Chronique, chapitre 14, et on va lire... ce qui peut être intéressant pour commencer, verset 2, ça va, tout le monde a trouvé. 1 Chronique, chapitre 14, verset 2. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. Voilà. On en dira deux mots tout à l'heure, mais on continue avec le verset 8, parce que c'est là où nous allons apprendre les plus grandes leçons de la manière dont David a été victorieux et qu'il a mis toute sa confiance en Dieu. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphinim. David consulta Dieu en disant « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit « Monte et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératsin où David les battit. Puis il dit « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme les eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsin. Ils laissèrent là leur Dieu qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Voilà pour cette mise en exercice de ce que nous avons dit précédemment. Alors, David est un héros, on le sait, et ses actes d'héroïsme, il les tenait non pas parce que c'était le plus grand, le plus beau, le plus fort, mais parce qu'il avait foi en Dieu, c'est tout. David a toujours été un personnage, mis à part une exception, mais relativement modeste et humble, et en tous les cas faisant confiance à Dieu dans sa vie. Alors d'abord, j'ai commencé par là, il nous est dit que David vient d'être nommé roi d'Israël. Vous savez quand même qu'il a attendu 40 ans pour l'être. Ça fait quand même un bail. C'est beaucoup 40 ans. Enfin, ça fait quand même la moitié d'une vie. Et pendant ce temps, il a dû s'enfuir, il a été persécuté et tout cela, et voilà qu'il arrive à un moment donné où Dieu juge qu'il est prêt à être roi, qui va pouvoir prendre le pouvoir et qui va devenir le roi béni entre les mains de son Dieu pour que toute la nation d'Israël soit aussi en bénédiction et puisse recevoir la bénédiction. Alors il a reconnu que l'Éternel l'affermissait, c'est-à-dire l'installait sur le trône, et que son royaume était haut élevé. Voilà un homme qui réussit, un jeune homme, enfin bon, encore un homme d'un âge relativement jeune, 40 ans, et nous apercevons qu'il va s'apercevoir que si son royaume est un royaume fort, c'est parce qu'il y a quelqu'un de très fort, de plus fort, qui est avec lui et qui lui donne cette bénédiction. Mais vous savez, dès que l'on commence à rentrer dans cette dimension du service de Dieu, que l'on est à notre place, comme David l'était, puisque c'est Dieu qui l'avait institué roi, que il commence à régner en justice, parce que c'est quand même la vertu cardinale d'un roi, c'est-à-dire d'être juste, d'être bon, de pouvoir faire le bien de son peuple, nous apercevons qu'il va commencer à avoir des ennuis. Oui, parce que si on veut faire le bien, on va avoir des ennuis. C'est curieux, hein? C'est bizarre. Bon, remarquez, quand on fait le mal, on peut avoir des ennuis aussi. Et ça, c'est sûr. Mais c'est pas de la même nature et c'est pas de la même provenance. Lui, il s'applique à faire le bien, à servir Dieu, à croire en Dieu et à encourager tout le monde à servir Dieu. Et là, premier choc, il va avoir une guerre. Son royaume va rentrer en guerre avec l'ennemi héréditaire, l'ennemi de toujours, que l'on appelle les Philistins. Ça a toujours été, finalement, eh bien, le choc entre ces deux nations. Et nous avons lu, les Philistins apprirent que David avait été donc oint, c'est-à-dire consacré roi, avait été mis sur le trône, pour roi sur tout Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pas venus le féliciter, hein. Ils sont pas venus lui dire, tu sais, on est content que ce soit toi qui sois roi, parce que, voilà, on te connaît bien, et t'étais meilleur que l'autre, t'es meilleur que l'autre que celui qui était avant. C'est comme ça que ça se passe en politique. Alors, il nous a dit qu'ils se sont mis en guerre à ce moment-là, ils montèrent tous à sa recherche. C'est difficile parce que, déjà, gouverner un pays, c'est pas simple, on le voit, hein. Mais en plus, quand vous avez une attaque en règle qui vous arrive de tous les côtés, les Philistins, des gens qui étaient quand même à l'image un petit peu de ces peuples qui sont ennemis d'Israël, et qui le sont encore, parce que 4000 ans après, nous en entendons parler. Ils ont changé de nom, hein, mais ça revient au même. Et on s'aperçoit que c'est toujours le conflit. Et jusqu'à la fin des temps, eh bien, Israël sera toujours en but et en lutte avec ses voisins ou avec ses ennemis. Donc, quand ils ont appris que David était roi, bien qu'ils le connaissaient un peu, hein, eh bien, à ce moment-là, ils se sont mis en armée, ils sont montés à sa recherche, et ils se sont dit, on va lui faire la guerre, et puis, voilà, on va régler un petit peu les comptes. Mais comme Dieu sait tout, ce qu'il nous faut, comme on l'a dit tout à l'heure, il nous a dit que David en fut informé. C'est-à-dire le temps au moins de mettre son armée en place. Parce que c'est toujours la surprise, vous savez, les Pearl Harbor, comme en 1941, où les Américains ont été complètement cisaillés et détruits en espace de quelques heures par l'aviation japonaise, ils s'y attendaient pas à ça. Hein. Ils pensaient pas que ça allait leur arriver. Hein. C'est comme les tours de Manhattan, ils s'y attendaient pas non plus. Ça, c'est la chose la plus désagréable quand on est attaqué d'une manière traite. Et là, on sait pas se défendre. Alors, il en a été informé le temps qu'il puisse aussi, eh bien, se mettre ses armées en route. Hein. Et il est sorti au devant d'eux. Il a eu juste le temps de faire ça. Donc, par égal, hein. Mais c'est pas parce qu'on est face à face et qu'on se sent en capacité de vaincre son ennemi et puis son ennemi de nous vaincre, les ennemis nous vaincre aussi. Mais il nous est dit que les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïnes. Alors, je vais vous donner la signification du mot Réphaïne. Ça veut dire tout simplement fort et géant. Imaginez-vous la connotation que ça peut avoir quand vous avez en face de vous, eh bien, une armée forte et une armée de géants. Ça peut tout de suite vous intimider, hein. Enfin, les géants, David avait déjà un petit peu l'habitude quand il avait dégringolé, excusez-moi, c'est le mot, hein, parce que c'est le mot, hein, quand il avait dégringolé Goliath. Lui, le petit bonhomme, parce qu'il n'était pas grand, David, hein. Mais il avait vu Goliath qui faisait au moins 3 fois sa taille, et Goliath est en train d'insulter David en disant « Mais tu n'es rien, tu n'es qu'un chien. » Alors imaginez-vous comme accueil, hein, ça fait plaisir, hein, quand vous entendez ça. Et David, il se démonte pas, il prend sa fronde, il met un caillou dedans, il en avait 5 dans sa poche, il n'y en avait qu'un qui a apporté, hein. Il n'avait besoin de qu'un. Et il lui a dit « Tu viens devant moi avec les insultes de tes dieux, moi je viens au nom de l'Éternel, mon Dieu. » Et il fait marcher sa fronde, pauvre Goliath. Et il en a perdu la tête. Tombé, le géant par terre. Et nous voyons que les Réphiim, eh bien, ce sont tout simplement, c'est un nom qui veut dire, eh bien, géant et fort. Et c'est là où s'est placée l'armée des Philistins en disant, mais David, on va t'avoir, hein, parce que nous sommes dans au bon endroit, dans la bonne vallée. Et regarde un peu ce que ça veut dire, hein, la vallée des géants. Alors on va faire de toi et de ton armée, eh bien, qu'une bouchée de pain. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais David, quand il a su ça, il y avait certainement pas mal de présomption de perdre la guerre devant cette armée d'ennemis, devant ces gens. Vous savez ce que David a fait? Est-ce que nous oublions de faire, nous, quelquefois? David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Ça vous rappelle quelque chose? Les vertus de la prière au bon moment, quand ça va mal, quand tout va mal, quand tout semble perdu? Ben oui, c'est ce que nous avons lu. La prière au bon moment. Il a demandé à Dieu, consulter, ça veut dire qu'il a prié. C'est-à-dire, tout simplement, eh bien, le temps favorable. Remarquez, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut prier que quand il y a le feu à la maison. Hein. Et souvent, il y a des gens autour de nous qui ne pensent pas à Dieu, mais alors aucunement, Dieu est véritablement le dernier des derniers qu'on penserait. Mais à partir du moment où là, vraiment, il y a quelque chose qui brûle, quelque chose qui fait mal, quelque chose où on est vraiment en détresse, on se souvient qu'il y a un Dieu et on commence à... Bon, remarquez, vaut mieux le faire que pas du tout, hein. Mais vaut mieux le faire quand même, en régulier, c'est mieux. Ça, c'est sûr. Alors, il a prié Dieu et il a formulé cette prière toute simple qui est à la fois le témoignage de sa foi, mais aussi de son obéissance ou des dispositions à l'obéissance. Il demande à Dieu, « Est-ce que je vais à la guerre? Est-ce que tu vas me livrer mes ennemis entre mes mains ?» C'est formidable. Hein. Parce que ce que David ne savait pas, Dieu le savait. Comme nous l'avons vu, tout simplement, « Mon Dieu sait si bien ce qu'il me faut. Mais je ne saurai jamais ce qu'il me faut si je ne lui demande pas. » Or, là, David a ce sentiment que s'il demande, il va recevoir. Et c'est toute l'invitation à la prière qui nous est préposée. Je demande et Dieu va me répondre. La question, elle est là. Est-ce que je vais monter et est-ce que tu vas être avec moi dans ce combat et dans cette lutte? Simplement. Il prie et Dieu lui dit. Il prie et Dieu l'exauce. Et l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Voilà. Tout simplement. Et là, c'est vraiment quelque chose qui nous réconforte. C'est en quelque sorte ce que nous avons lu tout à l'heure. Ce sont les calamités surmontées et qui nous rassurent. Voilà. L'ennemi n'a pas été vaincu, mais je sais maintenant qu'il va se passer quelque chose parce que mon Dieu n'est pas contre moi, il est avec moi. N'allez pas penser que quand vous priez, Dieu est contre vous. C'est une erreur, c'est une fausseté. On fait erreur quand c'est comme ça. Mais quand on prie avec foi et avec confiance, mais Dieu sera avec nous. Quel que soit, je voudrais vous dire, si nous demandons pardon parce que nous avons fait des erreurs ou que nous nous sommes mis dans le marécage nous-mêmes, mais Dieu peut nous pardonner. Et ce pardon va avoir comme aboutissement, eh bien, la délivrance. On est loin du Dieu vengeur et du Dieu qui punit, hein. Ben, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui fait miséricorde. C'est un Dieu qui entend nos détresses et qui vient nous délivrer. Ouais. Alors Dieu lui dit, je te les livrerai entre mes mains. C'est bien de savoir qu'on n'est pas seul, hein. Quelquefois, on peut être seul sur la terre, mais si nous avons notre Dieu au ciel, celui qui nous a appris à lui dire notre Père qui est aux cieux, eh ben, moi, je suis peut-être sur la terre, mais il est au ciel, mais je suis avec lui, il est avec moi. Tout simplement. Ça change les choses. Et cette sécurité, eh bien, inspire ma confiance. C'est pour ça que nous l'avons dit, que votre cœur ne se trouble au point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais quand Jésus a dit ça, c'est qu'il savait pourquoi il le disait. Et il l'a dit pour les hommes de tous les temps. Vous savez qu'il vous le dit aussi pour nous aujourd'hui, le 20, on est combien? On est le 12, voilà, 12 mai, d'accord? C'est pour aujourd'hui, hein? On dirait, la Bible, c'est un livre poussiéreux pour, c'est pour les anciens et tous ceux qui sont morts depuis bien longtemps, non? C'est pour nous aujourd'hui, tout simplement. Alors, il nous est dit que les armées montèrent à Baal-Pératsin, où David les bâtit, ouais. Baal-Pératsin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'hébreu, hein. Ça veut dire quoi? C'est le seigneur des brèches. Ça veut dire le seigneur des brèches. Et David avait consulté son seigneur, son roi céleste, Et à ce moment-là, dans l'armée des ennemis de David, Dieu avait fait des brèches. Vous savez ce que c'est qu'une brèche, hein? Voilà, c'est un trou. Tout simplement. Ils étaient peut-être comme les légions romaines, côte à côte, coude à coude. Mais là, à un moment donné, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait aux Philistins. Un effet qui était surnaturel, certainement, il y a eu une brèche. Et ça a été la défaite de l'armée, tout simplement. Ouais. C'est également la signification de Baal Peratsin, ça veut dire le lieu de rupture. Donc, les Philistins qui attaquent David sont démis, ils sont défaits, c'est la déroute. Ils sont séparés les uns des autres, parce que Dieu est intervenu. Ça, c'est le miracle qu'on n'expliquera jamais. Parce qu'un miracle, ça s'explique pas, ça se vit. Ça se croit d'abord et ensuite ça se vit par la suite, naturellement. Alors ils sont montés à cet endroit et David les bâtit. Puis il dit, c'est David qui parle, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme les eaux qui s'écoulent. » C'est vrai que David était leur roi. Il ne s'est pas forcément approprié la victoire, mais il donne la gloire à Dieu parce que c'est Dieu qui a dispersé mes ennemis. Vous savez que c'était pas lui. Bon, c'est vrai, par sa contribution, avec ses soldats, avec son armée, mais il rend hommage à Dieu. Dieu a dispersé mes ennemis, et il dira ce témoignage qui est imaginatif, naturellement, c'est une image, hein, de l'esprit. Ils se sont dispersés comme les eaux qui s'écoulent. Vous savez, l'eau, quand elle s'écoule, ça s'en va dans tous les sens. C'est pour nous dire que là, il y a une véritable, une grande et une formidable victoire qui a été prise contre les Philistins. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Peratsin que je vous ai expliqué il y a un instant. Les brèches, la rupture. Mais les Philistins sont venus avec du butin. Enfin, ils sont venus avec du butin. Ils étaient venus pour faire du butin, piller Israël. C'était comme ça à l'époque. Remarquez, quand les Allemands occupaient la France, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées de l'autre côté de la frontière. Enfin, c'était un aller-retour parce qu'après, c'est revenu chez nous. Mais enfin, c'était terrible, hein. Terrible, enfin il y en a beaucoup parmi les hommes qui sont jamais revenus, hein. C'est terrible. Comme ça les guerres, hein. On fait du butin sur l'ennemi, on massacre, on tue, et voilà, tout simplement. Alors, ils laissèrent là leurs dieux, parce que vous savez quand ils allaient à la guerre dans le temps, ils emmenaient leurs idoles, ils emmenaient leurs dieux, ils faisaient là toutes sortes de choses, et puis quand ça tournait mal, ils se mettaient à prier, enfin, c'était pas Israël, ça, parce qu'Israël c'était interdit pour lui. Alors, mais c'était des idoles en or, en argent, toutes sortes de choses précieuses. Ils les emmenaient donc au combat, et il nous est dit qu'ils laissèrent là, ils ont abandonné leur dieu et tout ce qui allait avec, l'idolâtrie et leur magie et leur occultisme, et ils furent brûlés au feu, eh bien, sur les ordres de David. C'est-à-dire que ça a été nettoyé. Oui. L'impureté, toutes ces choses terribles, toutes ces choses diaboliques et démoniaques, telles que cette invocation de ces faux dieux, eh bien tout ça, ça a été brûlé. David n'a même pas voulu y toucher et les récupérer, parce qu'il y avait quand même de l'or et de l'argent, il y avait toutes sortes de choses. Allez, tout ça s'est brûlé. Ça, c'est la première guerre. C'est le premier cataclysme. C'est la première calamité. Il rentre dans son rôle de roi. Quelque temps se passe. Et tout à nouveau, les Philistins, qui n'avaient pas digéré la défaite, ils se sont reconstitués une armée, ils se sont dit, cette fois-ci, eh bien, David, on va lui faire payer ce qu'il nous a fait. C'est toujours le principe de la vengeance, hein, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait ça, mais moi je te ferai encore pire, parce que tu... Voilà, c'est comme ça. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée, toujours celle des géants. Il aurait dû comprendre que ça leur a pas porté chance la première fois, hein. Même chose, David consulta encore son Dieu. Vous avez remarqué une chose, c'est que David ne fait rien sans Dieu. Heureux l'homme qui prend la précaution, qui a la sagesse, qui fait la démonstration de prudence dans ce qu'il fait de demander à Dieu si Dieu est d'accord. Vous savez, nous sommes dans une société où nous revendiquons notre indépendance, notre liberté, et que nous n'avons rien, rien, rien à faire de Dieu. Notre monde se déchristianise. Aujourd'hui, vous parlez de Dieu aux gens, ils sont pliés, hein, de rire, hein. C'est terrible, hein. Ouais. Et pourtant, le monde est si malheureux. Le monde est dans une détresse épouvantable. J'en parlais encore avec quelqu'un dernièrement, je me dis, mais aujourd'hui, quand on regarde un peu tout ce que nous regardons, mais je dis, mais l'enfer est déjà sur la terre, hein. Alors nous, on est tranquille parce que bon, on est dans un pays où on est à peu près protégé, on a de quoi manger, etc. Mais quand vous regardez un petit peu de droite et de gauche, vous vous apercevez, en Afrique, en Asie et tout ça, mais quelle misère, hein. Quelles conditions humaines pour certains, les enfants, les femmes en particulier. On se dit, mais quel piétinement, quel écrasement, c'est pas possible, hein. Oui, je dis que l'enfer est déjà sur terre. Alors si déjà c'est pas très agréable ici-bas, mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça va être, hein? Enfin, ceux qui seront de l'autre côté, hein. Ben, du mauvais côté, naturellement, vous comprenez. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, le contraire de ce qu'il avait dit précédemment, « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » C'est là où nous revenons à notre psaume 32, verset 8, où il est question tout simplement de cette sagesse que Dieu peut nous donner, que nous n'avons pas. Il peut nous révéler les choses que nous ne savons pas, mais qui va nous demander de comprendre, c'est de nous instruire. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Je te donnerai ma présence. Elle ne te manquera pas au moment de difficulté. Si nous relisons le texte, ça veut dire ça. Tu te détourneras d'eux, tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras le bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Nous instruire, nous montrer, suivre le chemin qui nous a été montré, en d'autres termes, faire ce que Dieu nous donne de faire, de suivre son conseil, et puis de savoir qu'il aura les yeux sur nous, tout simplement. C'est exactement la traduction, hein. Si l'on met en parallèle les deux textes, eh bien voilà la réponse en quelque sorte. Tu ne monteras pas contre eux. Tu les as vaincus de cette façon, mais cette fois-ci tu les vaincras d'une autre manière. Parce qu'on pourrait dire, je l'ai essayé une fois, ça marche. Eh bien justement, c'est ça peut-être le paradoxe avec le Seigneur, c'est qu'on peut marcher, on peut faire une expérience dans un domaine particulier. Ça ne veut pas dire que dans une même situation, une prochaine fois, Dieu nous demandera de faire exactement la même chose. Dieu va lui dire, tu feras le contraire, tout simplement. Alors, tu vas t'approcher, mais pas de face, mais en les détournant. Tu vas t'approcher d'eux, vis-à-vis des mûriers. Ça devait être une forêt de mûriers. Hein. C'est pas le petit mûrier qu'on en a chez nous. Hein. Dans les pays en Palestine et tout ça, attention, ce sont des arbres et ce sont quelque chose qui représente. Et il dit, tu feras bien attention, parce que quand tu entendras un bruit, comme le vent, comme des pas, qui sont sur la cime des mûriers, c'est-à-dire de ces arbres qui sont là. Quand tu entendras ce vent, il va se passer quelque chose. Mais sache que ce n'est pas le vent. Ça ressemble au vent. Connaissez un petit peu l'histoire de la Pentecôte? Il nous est dit qu'ils étaient tous dans la chambre haute. C'est bientôt la Pentecôte, c'est la semaine prochaine. Qu'ils aient là 120 à prier dans la chambre haute. Et qu'il y a eu un bruit comme un vent, là, impétueux. Et là, c'est un bruit de pas dans les mûriers. Alors, à ce moment-là, tu sortiras pour combattre. Parce que c'est Dieu qui va te montrer, c'est Dieu qui va te conduire et c'est Dieu qui va te donner la victoire. Ça, les conseils de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à écouter les conseils de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à faire sa volonté? On regimbe quelquefois en disant, Seigneur, je suis quand même un grand garçon, je peux me débrouiller tout seul. Ben, si vous lui demandez, alors à ce moment-là, faut pas aller plus loin. Hein. Si vous savez faire les choses, faut les faire vous-même. Mais à partir du moment où on est conséquent et qu'on a ce minimum de crainte de Dieu, eh bien on l'écoute. Parce que vous savez, on en a vu d'autres, hein. Ouais. Il y a des gens qui disent, je sais faire. Puis vous savez ce qu'ils se sont fait? Ils se sont retrouvés à l'hôpital parce qu'ils pensaient que la porte était ouverte et la porte était fermée. Nez écrasé. Excusez-moi, c'est une vue, hein. Voilà. Comprenez ce que ça veut dire. C'est pour dire que quelque part, on pense être suffisamment grand garçon et on a tout à apprendre du Seigneur. Vous savez, la vie, c'est un piège, hein. Beaucoup de choses dans la vie. Quelquefois, on ne veut pas écouter les conseils, puis on s'aperçoit que quand on est dedans, on se dit comment m'en sortir. Hein. Parce que ça fait mal quand on est dedans. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Moi, je m'en vais. Tu sais, je vais avoir une belle vie maintenant. Hein. J'ai plus besoin de toi, mon père. Puis alors, on se retrouve dans une situation calamiteuse. Et là, il crie parce qu'il a faim, parce que tout le monde l'a abandonné. Il n'a plus d'argent, plus rien du tout. Et c'est là où il prend conscience en disant, je vais retourner, je vais revenir. Parce que je m'aperçois que ma sagesse était de la folie. Ce que je croyais de la sagesse, c'est tout simplement de la folie. Vous savez, cette histoire de mûrier, cette histoire de pas, parce que ça nous est dit, hein, c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Vous savez, dans la Bible, il nous est parlé, il nous est donné un nom à Dieu. Vous connaissez lequel ? L'Éternel des armées. Et ça, ça n'a rien à voir avec nos chars d'assaut et nos avions et nos drones. Dans la Bible, s'il est question de l'Éternel des armées, c'est que Dieu a une armée. Et une armée qui est invisible. Une armée qui est faite de légions. Et dans ces légions, Jésus nous en parle au moment de la crucifixion. Il dit « Ne pourrais-je pas invoquer mon Père et qui me donnerait à l'instant une légion d'anges ?» Il y a un monde invisible autour de nous. Nous, on pense qu'on est des bons terriens, les pieds dans nos sabots sur le sol, et voilà, hein, on connaît tout, on sait tout. Non, non. Moi, je voudrais quand même affirmer par l'Évangile, et Jésus nous l'enseigne, et puis toute la Bible nous l'enseigne, c'est qu'il y a des choses visibles et des choses invisibles. Dieu est invisible, ça c'est sûr. Nous nous sommes enfermés dans un corps matériel. Et nos yeux et nos sens nous donnent de comprendre notre environnement. Mais il y a une chose qui peut faire la différence, c'est que si nous avons la foi, nous pouvons accéder à un autre monde, à un monde qui reste invisible, c'est vrai, mais nous savons qu'il existe. Et quand Dieu parle de son armée, c'est que Dieu, pour sauver, pour délivrer un homme, une femme qui l'invoque, qui crie à lui, qui lui apporte et qui dépose à ses pieds, enfin, façon de parler, c'est une vue de l'esprit, et qui dépose ses fardeaux, alors à ce moment-là, il nous est dit que les anges sont des serviteurs envoyé par Dieu pour apporter le salut aux hommes. L'ange de l'Éternel campe autour de celui de ceux qui le craignent, n'est-ce pas, le psaume 34. Il y a un monde. C'est pas pour ça qu'il faut prier les anges. C'est pas pour ça que nous devons prier ou adorer les anges. C'est interdit, ça. Mais une chose qui est certaine, c'est que notre délivrance peut venir d'une manière inattendue et miraculeuse. Elle ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. L'apôtre Jean nous dit ceci, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous avons cette confiance en Dieu que là où c'est impossible, là où c'est invisible, là où c'est inconcevable, eh bien le Seigneur est capable de faire des choses par le truchement de ce monde invisible, et ce monde-là est plus fort que tout ce qu'il peut y avoir sur la terre. Ça, hein ? L'armée des Philistins, complètement défaite. David fit ce que Dieu lui avait ordonné et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. Encore deux mots hébreux que je traduis. Gabaon, ça veut dire hauteur. Depuis Gabaon, donc Israël était sur la hauteur. Il avait vaincu ses ennemis et Gézer, ça veut dire précipice. Remarque, c'est logique, hein. Entre hauteur et puis un précipice, après la hauteur, c'est le précipice. C'est-à-dire que ça voulait dire que la victoire était totale et complète, une fois, deux fois, et que finalement, eh bien, tous les ennemis, qui étaient l'ennemi d'Israël, mais les ennemis de Dieu, ont été complètement vaincus et complètement défaits. Et je termine. La renommée de David se répandit dans tous les pays, pas dans tout le pays, mais tout alentour, dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable. Cette crainte, elle venait de quoi ? Non pas parce que David était un bon guerrier, parce qu'il était roi d'Israël, parce que c'était un fin stratège militaire. Non, c'était tout simplement parce que c'était un homme qui puisait ses sources et ses ressources en haut et non pas en bas. Et ça a fait finalement eh bien, que les ennemis tout autour, toutes les nations, les peuples qui étaient autour d'Israël à ce moment-là, qui étaient un petit peuple, qui est toujours un petit peuple, mais qui était un petit peuple avec un petit royaume, eh bien, tout le monde l'a laissé tranquille à un moment donné. Hein. Il disait, mais non. À chaque fois qu'on veut toucher à Israël, eh bien, on reçoit véritablement la contrepartie. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qui s'est passé. À travers les siècles, à chaque fois qu'on veut toucher à Israël, même encore maintenant, si vous allez à Jérusalem, si vous avez l'occasion d'aller à Jérusalem, vous allez voir Yad Vashem. C'est le mémorial de la Shoah. C'est là où les Israéliens ont fait ce musée mémorial de tout ce qui s'est passé entre 1934 et 1945. C'est terrible. C'est terrible parce qu'on ne peut pas s'imaginer que l'homme, cette humanité, soit aussi cruelle, soit aussi haineuse, et cette inimitié contre le peuple juif, contre le peuple d'Israël. De le détruire et de le brûler. 6 millions sont passés dans les fours crématoires. Et on se dit qu'à chaque fois qu'on a voulu toucher Israël dans son histoire, à travers les pogroms, soit en Espagne ou en Union soviétique, puis en Russie. À chaque fois qu'on a voulu toucher à Israël, Israël a été touché, ça c'est sûr, mais il y a toujours eu un retournement, et ceux qui l'ont soumis, ceux qui l'ont écrasé, comme Pharaon en Égypte, comme Babylone en son temps, ça s'est retourné contre les persécuteurs d'Israël. Et quand on voit, après la guerre, ce qui restait de l'Allemagne, surtout de l'Allemagne nazie, que des ruines, surtout le territoire allemand, que des ruines. Et si l'on fait le décompte, il y a eu à peu près 6 millions de juifs qui sont morts dans les camps de concentration. Je sors un peu de mon texte, mais c'est pour montrer que respectons Israël. 6 millions de juifs qui ont été exterminés, et il a été estimé en perte allemande entre les soldats, sur tous les fronts, entre les femmes, entre les hommes, les enfants, 6 600 000. Plus que ce qui avait été détruit. C'est terrible. Pourquoi ? Parce que je crois que les Juifs, même s'ils n'ont pas accepté leur Messie, c'est-à-dire Jésus, Yeshua, eh bien, en tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est encore un peuple qui prie Dieu. Et on voit aujourd'hui, menacé de toutes parts, l'Iran qui prépare une bombe atomique pour le renvoyer sur la tête, les uns et les autres, cette querelle. Ne pensez pas que je suis un pro-israélite ou un pro-israélien. Non, c'est la constatation, et à travers 4000 ans d'histoire, quoi qu'il en soit. Alors la renommée de David se répandit dans tous les pays. Et moi, ce que je voudrais simplement dire et terminer, pour revenir à être question beaucoup plus pratique pour nous, cette histoire nous a été racontée pour nous dire que nous avons au ciel quelqu'un qui est plus fort que tout. Mon Dieu sait si bien ce qu'il me faut. Mais je saurai ce qu'il me faut dans la mesure où je vais le consulter. En d'autres termes, si vous voulez, je saurai ce qu'il me faut si je le lui demande. Et demander à Dieu, ça s'appelle prier. Prier avec confiance, prier avec foi, tout simplement. Et alors à ce moment-là, pourquoi vais-je m'attrister ? Pourquoi avoir peur ? Que votre cœur ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi, nous dit Jésus, parce que Jésus est notre victoire sur le mal, sur toute chose, alors que Dieu nous bénisse. Et si nous avons besoin de nous approcher de lui, eh bien recevons et acceptons Jésus comme notre sauveur personnel. Demandons-lui pardon de notre ignorance, de notre méconnaissance, de notre indifférence, de notre insouciance. Demandons-lui pardon, approchons-nous de lui et demandons-lui qu'il devienne, il l'est déjà si nous le voulons, qu'il soit notre sauveur, celui qui nous délivre de toutes nos détresses, et qu'il soit notre Seigneur, c'est-à-dire le roi dans notre vie, dans notre cœur. On va prier maintenant, que Dieu nous bénisse, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle nous fait comprendre des choses. Oui, c'est vrai. Elle nous éclaire. Elle est comme David l'écrira lui-même. Ta parole est pour moi une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Surtout, Seigneur, lorsque il y a de l'obscurité, lorsque je marche dans la nuit, lorsque je suis dans les ténèbres, combien j'ai besoin de ta lumière. Merci, Seigneur, pour ta grâce, parce que tu nous invites tout simplement à écouter ce que tu as à nous dire, parce que tu nous dis des paroles formidables. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Seigneur, c'est bien tout cela ce qu'il nous faut en tant qu'homme. Devant les tribulations, l'adversité, devant toutes ces choses, toi tu te proposes de nous les donner, et nous voulons tout simplement nous proposer à venir à toi pour que nous les recevions. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.